Le grand rendez-vous de l'épargne. Une émission proposée par Capital et Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet et Julien Bouissou.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Épargne. Chaque mois, vous le savez, nous décryptons ensemble l'actualité économique avec nos invités, nos grands témoins et nos experts. Et pour présenter cette émission, je suis bien sûr en compagnie de Julien Bouissou. Bonjour Julien.
Bonjour Fabrice, bravo pour le pull.
Eh oui, pull de Noël. Bon, en radio, c'est moins bien. Chef de service argent et placement au magazine Capital. Julien, qu'est-ce qui nous attend ce mois-ci ?
Alors, on va s'intéresser à un placement, on va dire, en circuit court, puisqu'il s'agit de financer soit des opérations immobilières, soit des centrales d'énergie renouvelables. Alors, c'est ce qu'on appelle le crowdlending, en anglais. Ça reste un placement risqué, puisqu'on n'est jamais sûr que le projet ira à terme, mais qui, jusqu'ici, rapporte entre 5 et 9% de rendement. Donc, pour en parler avec nous aujourd'hui, on a Laure Vérag. Bonjour Laure, vous êtes directrice générale de l'Indosphère, qui est une plateforme spécialisée, justement, en énergie renouvelable.
Bonjour.
Bonjour. Et aussi David Elnouchi, de votre côté, vous êtes cofondateur de Club Funding. Alors, on est plutôt sur le leader, je crois, du financement immobilier. Oui. Bonjour David.
Bonjour Julien.
Bienvenue à vous deux. Effectivement, crowdfunding, crowdlending, quelle est la différence? Comment on fait aussi pratiquement pour investir si on est intéressé? Est-ce qu'on peut ouvrir son compte d'ailleurs avant la fin de l'année? On verra tout ça ensemble. Et puis, comme d'habitude, le coup de cœur, coup de gueule de Pierre Sabatier, le président de PrimeView. En fin d'émission, votre séquence préférée, à part bien sûr nos grands invités, les experts, c'est eux qui répondent à vos questions que vous envoyez à la rédaction de Capital. Voilà pour le sommaire, le grand rendez-vous de l'épargne. C'est parti.
Le grand rendez-vous de l'épargne, le grand témoin.
Faut-il craquer pour le crowdlending? Voilà le sujet du jour avec nos deux invités. On va commencer avec vous, Laure. Est-ce qu'on peut avoir une rapide définition du crowdlending par rapport, je le disais, au crowdfunding et aux autres financements par la foule en bon français?
Le crowdlending, c'est du financement participatif en prêt rémunéré. Ça permet aux particuliers d'investir avec un taux d'intérêt, une rémunération, dans des projets sélectionnés par les plateformes. Sur l'Endosphère, plateforme spécialisée dans les énergies renouvelables, on peut investir en prêt ou en equity dans des projets d'énergie renouvelable. Et donc, c'est une façon directe de devenir les banquiers en tant que particulier de ces projets d'énergie renouvelable, centrales solaires ou fermes éoliennes.
Vous avez dit quelque chose, on a le choix entre prêt et equity. Quelle est la différence? Ça ne parle pas forcément aux gens qui s'intéressent pour la première fois à ce marché.
Un prêt, donc on va prêter au projet. J'investis 1 000 euros avec un taux d'intérêt à 5%. En equity, j'acquiers des parts d'une société qui détient, elle, une centrale solaire ou une ferme éolienne. Et donc, j'en deviens actionnaire et je suis rémunérée sur les parts que je détiens dans cette centrale solaire ou cette ferme éolienne.
D'accord. Donc, d'un côté, j'ai des dividendes en tant qu'actionnaire. Et de l'autre côté, je suis remboursé.
Des intérêts.
Des intérêts. David, vous voulez compléter, David Elnouchi?
Non, tout à fait. Il y a ces deux principales formes dans le crowdfunding. Il y a également l'investissement sous forme de dons. Et là, c'est plutôt des œuvres caritatives, sociales. Et tout cet ensemble fait le crowdfunding. Donc l'equity, la dette et le don. Aujourd'hui, ce qui ressort du marché, c'est essentiellement la dette dans des secteurs spécialisés comme les énergies renouvelables et l'immobilier qui tire le marché. Mais il y a également donc, de l'equity et du don.
Et de votre côté, donc, c'est immobilier. Alors, c'est une grosse partie maintenant, parce que je crois que la collecte pour l'année 2021, ça va être à peu près 1 milliard quand même, ouais. 1 milliard d'euros de financement immobilier. Plus précisément, vous, quel type d'opération vous financez? Sous quelle forme?
Alors, nous, on intervient uniquement sous forme de prêts. Ça va être des émissions obligataires, donc des entreprises, des TPE, des PME à vocation immobilière qui émettent directement des obligations qui sont souscrites par des particuliers ou par des personnes morales. Alors on va financer deux types d'acteurs principaux, ce qu'on appelle des promoteurs immobiliers, donc qui achètent un terrain et qui vont faire une construction neuve, et également des marchands de biens ou des promoteurs rénovateurs qui vont restructurer des actifs et créer de la valeur sur des actifs existants. Et donc nous intervenons en complément des banques et nous venons apporter ce qu'on appelle l'apport, les fonds propres sur des projets immobiliers.
Et donc le plus souvent, l'investisseur est remboursé in fine, comme on dit, c'est à la fin du projet.
Tout à fait. Dans un premier temps, la banque qui cofinance à nos côtés va être remboursée en priorité. Elle a ce qu'on appelle un premier rang sur les actifs. Et nous sommes en second rang. Donc une fois que la banque a été remboursée, eh bien, nos investisseurs sont remboursés. Et ensuite, l'opérateur récupère ses fonds propres durs et sa marge, évidemment.
Alors on constate, pour rester sur l'immobilier, un basculement un peu du marché. Au début, c'était vraiment promotion immobilière, hein, la plupart des plateformes faisaient ça. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est le cas chez vous, hein, il y a 80% des projets, je crois, qui sont de rénovation ou marchand de biens. Pour quelles raisons ce basculement ?
C'est vrai que nous nous sommes lancés essentiellement sur les promoteurs. Hein. Je me souviens, ça a été d'ailleurs un des basculements hein, de crowdfunding, puisque nous étions généralistes et puis nous sommes lancés dans l'immobilier en faisant de la promotion. Et nous avons compris que le monde des marchands était beaucoup plus vaste hein, que le monde des promoteurs immobiliers. Également que les banques demandaient beaucoup plus de fonds propres aux marchands de biens. Et c'était souvent des opérations qui pouvaient être à Paris sur des immeubles ou en Île-de-France et donc des volumes beaucoup plus importants. Et donc naturellement, un plus grand nombre d'acteurs, des volumes plus importants, une quantité de fonds propres demandée plus grande. Tout ça fait que finalement, d'un point de vue relatif, la part des marchands de biens a un petit peu grignoté sur la part des promoteurs. Aujourd'hui, c'est à peu près cet équilibre, 20% promoteurs, 80% marchands de biens.
D'accord. Et alors, on va peut-être s'intéresser au rendement hein, dont je parlais au début. Alors, en matière d'énergie renouvelable, quel est le rendement moyen sur la plateforme ?
Les rendements proposés sont entre 4 et 7 %. Et le rendement moyen depuis 2014, depuis notre création, s'élève à 5 %.
D'accord. Et ces 5 % donc sans frais, hein, y a pas de frais supportés par l'investisseur, en tout cas par le particulier. Et pas de défaut pour l'instant. Donc, c'est du rendement net, on va dire.
Effectivement, du rendement net de risque aujourd'hui sur la plateforme, avec l'absence de défauts que nous enregistrons, qui tient notamment à la qualité et à la solidité des acteurs que nous finançons. On va financer des opérateurs d'énergie renouvelable qui sont soit des grands groupes comme EDF Renouvelable, soit des ETI, des PME françaises qui affichent plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et qui sont des acteurs qui existent depuis une décennie ou plus sur le secteur des énergies renouvelables. Et donc, on est en mesure aujourd'hui d'apporter aux côtés des banques et un peu dans le même schéma que dans l'immobilier, aux côtés des banques parce que ce sont des acteurs qui ont accès au financement bancaire sans aucune difficulté, une partie de financement participatif sur la totalité de l'investissement nécessaire pour ces centrales d'énergie renouvelable. Et donc un rendement de effectivement 5%, aucun frais pour les investisseurs et un rendement donc brut avec la fiscalité
On n'y échappe pas. Laure et David, justement, une question. C'est vrai que c'est étonnant de voir ces plateformes. Vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment ? Financer le développement de la construction de centrales d'Amarinco, tranche B, développement du groupe Enoé, troisième tranche. Donc, ce sont des gros projets industriels. Vous le disiez, ils ont souvent accès au financement bancaire. C'est la même chose d'ailleurs pour l'immobilier. Comment ça se fait qu'il y ait cet intermédiaire avec des rendements assez spectaculaires hein, dans la conjoncture actuelle, pourquoi finalement ils acceptent de payer un peu plus cher ce financement ?
Un financement d'énergie renouvelable, d'un projet d'énergie renouvelable, c'est 90-95% de financement bancaire que nous n'avons pas vocation à remplacer.
D'accord.
C'est des financements long terme, sur 15 ans, avec des taux très bas. Là où nous arrivons, c'est soit en substitution des fonds propres des porteurs de projets, soit en amont du financement bancaire pour accélérer la construction. Et donc, on arrive à des phases précises des projets sur lesquelles les rendements que nous proposons sont compétitifs pour ces acteurs, Amarinco ou Enoé que vous citiez, et pour lesquels le financement participatif apporte une tranche de financement donc réactive, compétitive, avec une valeur ajoutée qu'ils n'ont pas par ailleurs, qui est celle de l'ancrage territorial des projets.
Si je prends une analogie, on sait très bien en tant que particulier, si on va à la banque aujourd'hui, naturellement, on vous demande un apport. Est-ce que c'est la même chose pour les entreprises ? C'est-à-dire qu'elles ont besoin au moins de montrer quand même patte blanche avec un peu de fonds propres ? Et c'est là où vous intervenez ?
Exactement. Aujourd'hui, dans les énergies renouvelables, les opérateurs ont besoin d'apporter entre 5 et 20 % de fonds propres. Et donc, nous, on va venir remplacer jusqu'à la moitié de ces fonds propres nécessaires pour obtenir le financement bancaire. Ou on arrive avant le financement bancaire. Donc au moment où l'opérateur a besoin de commencer à payer les panneaux ou les éoliennes et pendant une période de 12 à 24 mois avant le financement bancaire, la nécessité d'avoir un financement réactif à ce moment-là.
Bon.
En apportant la capacité pour les riverains du projet de financer ces projets. En l'occurrence, par exemple, pour Amarinco, c'est 230 centrales solaires réparties un peu partout en France métropolitaine et outre-mer. Et donc, les personnes qui habitent à côté des projets peuvent financer ces projets et avoir des retombées financières en direct.
J'ai l'impression qu'il y en a plus pour les panneaux solaires que pour les éoliennes, mais oui. Pas de polémique. David, c'est pareil pour l'immobilier. On se dit, quand on voit ce qu'il y a sur la plateforme, 8, 10, 12%, on se dit, mais c'est très cher payé finalement, c'est son propre. Ici, retrouve au final les porteurs de projets ?
Oui, tout à fait. pour les opérateurs immobiliers, le schéma est sensiblement similaire à celui des énergies renouvelables. Le crowdfunding vient apporter tout ou partie des fonds propres demandés par les banques pour financer les opérations. Et donc nous intervenons en même temps que la banque, hein, finalement. Donc au moment pour une promotion au moment de l'acquisition d'un terrain, également pour un marchand, une opération de marchand de biens, au moment de l'acquisition du terrain, et nous venons financer la partie fonds propres. Là, les rendements sont plutôt de l'ordre de 10%. C'est vrai que ça peut paraître élevé, mais finalement, ce n'est pas très cher, puisque l'alternative pour l'opérateur immobilier, c'est soit d'aller un peu puiser dans ses ressources, hein, dans sa trésorerie, et mettre finalement son groupe en péril, hein, pour lancer ses fonds propres, soit demander à un associé de prendre une part dans le projet. Généralement, le deal, c'est l'associé met 100% des fonds propres, il prend 50% de la marge. Soit l'opérateur renonce au projet. Et donc finalement, de payer du 10% sans accès au capital, c'est un bon arbitrage. C'est beaucoup moins cher que de l'association. Et ça permet d'aller vite, ça permet de faire tourner les fonds propres beaucoup plus facilement. Ça permet à l'opérateur immobilier de saisir beaucoup plus d'opportunités. Et donc, finalement, c'est un investissement qui est rentable sur lui. Et puis surtout, les 10% ne concernent que 20 ou 30% du coût de revient de l'opération. Donc, c'est pas...
D'accord, il va y avoir un financement bancaire finalement très, très faible en ce moment, hein, comme vous le disiez, avec les banques, on va dire, traditionnelles, celles qui ont accès à l'argent de la BCE, par exemple. Donc, très faible. Et sur le reste du projet, ils peuvent se permettre de payer quelques points supplémentaires.
Ça fait les coûts bancaires entre la promotion et les marchands, c'est entre 2 et 4% de taux d'intérêt. Et les banques vont financer en promotion entre 10 et 20% et en marchand vont demander entre 10 et 20% de fonds propres et en marchant entre 15 et 30%. Mais tout le reste est financé par les banques. Et nous, donc, nous intervenons en même temps que la banque et donc nous ne prenons pas de risque administratif, par exemple. Il n'y a pas de risque sur le calendrier, finalement, de l'opération. Il n'y a pas de risque sur la non-concrétisation de l'opération. L'opération va sortir. L'enjeu, c'est de savoir est-ce que l'opérateur va être remboursé au bout de 18 mois, au bout de 20 mois. Voilà, donc c'est vraiment ça le risque, un risque un peu de calendrier, mais pas de non-concrétisation de l'opération.
Et donc sur les 9%, c'est un standard du marché. À peu près, ça va rester stable, même si on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de volume. Donc on se dit, ça va peut-être baisser un peu à terme, ce rendement.
Alors aujourd'hui, nous sommes effectivement chez Clubfunding entre 9 et 11%. Le taux d'intérêt historique est de 9,9, donc quasiment 10%. C'est un taux avec 0% de défaut, donc c'est vraiment un taux net, hein, pour les investisseurs du coût du risque, pas net de la fiscalité. Hein. Ce taux reste à des niveaux élevés. Hein. Cette année, on était à 9,7 en moyenne, parce qu'il y a une concurrence, comme dans votre secteur, hein, j'imagine, assez importante d'autres opérateurs de crowdfunding. Mais les taux restent quand même élevés parce qu'il y a une très forte valeur d'usage à cet argent et à ces fonds propres qui sont apportés par les investisseurs particuliers.
Alors, c'est la même chose pour l'Indosphère, pour les projets. Alors, on n'est pas sur des taux. Pourquoi ? Parce que les opérations aussi sont peut-être encore plus sécurisées quand vous parlez de 5%.
C'est des opérations qui sont extrêmement sécurisées dans la mesure où nous intervenons souvent quand les projets sont permités, donc ont toutes leurs autorisations administratives pour être construits, sont purgés de tout recours et sont en phase de financement bancaire. Donc on intervient vraiment aux côtés des banques sur ces opérations et avec un tarif d'achat sur les projets que nous finançons, un tarif d'achat qui est sécurisé sur 15-20 ans, par EDF obligation d'achat, et donc une très bonne visibilité sur les business plans et sur la solidité des projets. Et donc ce sont des projets, ce sont des actifs concrets, réels, très résilients, avec effectivement une absence de défaut aujourd'hui sur l'ensemble des projets financés.
Julien, bien sûr, immédiatement, on se pose une question, c'est avec la crise sanitaire qui est arrivée, est-ce qu'il y a eu plus de défauts ? Quels sont les risques à surveiller quand on choisit une plateforme ? Vous êtes allé poser la question à Céline Mahinck, la fondatrice du cabinet de conseil Eden Finance, une équipe de choc en reportage. On regarde ça tout de suite, on se retrouve juste après.
Le grand rendez-vous de l'épargne, le reportage.
Quel est le taux moyen de retard des projets dans le secteur et est-ce que la pandémie a aggravé ce taux de retard ?
L'effet Covid a plutôt été apparemment positif sur le taux de retard, peut-être contrairement aux a priori. Les dernières stats de 2020, on avait environ 9% des projets en retard. Là, il semblerait qu'on soit plutôt aux alentours de 3% pour quasiment 3 milliards de fonds levés via du crowdfunding immobilier depuis l'origine du crowdfunding et pour quasiment 3000 projets. Donc c'est plutôt pas mal. Un taux de retard peut être en crowdfunding immobilier très anecdotique. Ça va être le retard entre 0 et 6 mois. Anecdotique parce que un retard dans de la sous-traitance, un retard dans la livraison de matières premières, un aléa climatique. Et puis, il peut être un peu plus important. Et donc, au-delà de 6 mois, et même pour moi, il faudrait essayer de fouiller un peu plus pour voir s'il n'y a pas, même par exemple, au-delà d'un an ou 18 mois, où là, ça deviendrait un peu plus inquiétant.
Quel est le taux moyen de défaut du secteur? Est-ce que la pandémie a aggravé ce taux de défaut?
Est-ce que la pandémie va accentuer le taux de défaut? Et j'ai pas encore la boule de cristal, pourtant ça m'arrangerait. On aura malheureusement la réponse en décalage, c'est-à-dire on verra ça en 2022 voire 2023. Aujourd'hui, le taux de défaut est flat depuis la naissance du crowdfunding. On est à moins de 0,1% de taux de défaut avec un seul opérateur qui a été mis en liquidation judiciaire.
Alors, rappelons-le, en cas de faillite du porteur de projet, quel espoir a l'investisseur de récupérer quelque chose?
Alors, malheureusement, je pense que les investisseurs en crowdfunding immobilier, quand le porteur de projet est mis en liquidation judiciaire, n'auront pas de recours, puisque avant, essentiellement par exemple quand on est en cofinancement avec un financement bancaire, c'est les banques qui vont passer en premier pour recouvrir. Mais donc vous le constatez, ce risque est vraiment aujourd'hui très infime. Alors que dans le crowdfunding en général, on a aussi le risque d'illiquidité. Parce qu'on va investir par exemple en actions dans une start-up, en crowdfunding immobilier, ce risque est quasiment inexistant. On va avoir un décalage de la liquidité parce que le projet va pouvoir prendre un petit peu de retard. Mais dans la quasi-totalité des cas, le porteur continue à assurer la rémunération du prêt de l'émission obligataire qui a été effectuée. Donc c'est bénéfice pour l'investisseur, ça décale juste un peu la sortie. Et de toute façon, au final, s'il n'y a pas... pardon de l'expression, plantage de l'opération de promotion immobilière, il finit par vendre, donc il rembourse.
Au moment de choisir le projet, quel conseil donner à l'investisseur? Peut-être prendre vraiment le temps de regarder, de décortiquer le projet?
Il me semble, oui, qu'il faut un peu de temps devant soi. Votre question soulève plusieurs points. Déjà, un constat, le crowdfunding immobilier, et c'est tout ce qui fait son intérêt, est pluriel. C'est-à-dire que suivant les statuts des plateformes et suivant les typologies de porteurs de projets qui sont financés, un promoteur immobilier, un marchand de biens, suivant le financement, si c'est une émission obligataire ou un prêt, etc., on va vraiment avoir différents points d'analyse à vérifier. Et donc, je ne peux pas donner une formule miracle. Ce que je conseille fortement aux investisseurs, c'est effectivement d'analyser le projet et donc le document d'information réglementaire synthétique pour comprendre ce qui se passe réellement. Et j'encourage encore une fois, mais elles le savent, les plateformes, à vraiment participer, à améliorer ce que j'appelle le time to invest, donc le temps disponible à l'investisseur entre le moment où il a accès à ces informations détaillées et le moment où il va pouvoir investir. Et j'espère que sous l'élan du nouveau statut européen et de leur obligation d'avoir à disposition ce document d'information 7 jours avant la mise en ligne, si l'AMF le demande, j'espère que les plateformes le mettront naturellement en ligne pour les investisseurs.
Voilà, Céline Mahinck, la patronne du cabinet Eden Finance, spécialiste de la question.
Oui, alors assez intéressant cette analyse. Je crois notamment, David, sur votre plateforme, les projets sont mis quasiment le matin et souscrits le soir. On n'a pas vraiment le temps d'analyser. Alors vous, comment vous appréhendez cette impossibilité-là aujourd'hui d'analyser vraiment sur quoi on investit, d'avoir du recul?
Alors, donc déjà, l'équipe de Club Funding fait une analyse complète du projet et met en place, je dirais, trois verrous sur le projet. Le premier, c'est l'analyse du projet. Donc, on va analyser tous les paramètres, tous les risques administratifs, commerciaux, techniques, évidemment, du projet pour sélectionner les meilleurs projets. Ensuite, on remonte un cran au-dessus et on fait une analyse corporate de l'entreprise qui porte le projet pour s'assurer que, en cas de défaillance du projet, l'entreprise a l'air insuffisamment solide pour pouvoir permettre le remboursement. Et en plus de ça, nous mettons en place systématiquement des garanties sur tous les projets. Ces garanties vont être des garanties réelles, donc ça va être des hypothèques, des nantissements, des fiducies, enfin il n'y a pas de limite à la créativité sur ce type de garanties. Et également des garanties personnelles. Nous demandons aux dirigeants des entreprises qui empruntent auprès de nos investisseurs de donner leur caution personnelle. personnel. Et donc, ces mécanismes permettent vraiment de sécuriser les projets. Alors, c'est vrai que nous faisons beaucoup de projets chez Club Funding, quasiment un par jour. Et donc, nous communiquons dès que possible le dossier aux investisseurs. Il y a beaucoup de dossiers de clients récurrents, donc de clients qui ont déjà emprunté, qui ont déjà remboursé. Donc c'est vrai qu'on a des investisseurs qui nous demandent des projets, des opérateurs qu'ils connaissent. Et donc, évidemment, Céline en parlait, avec la nouvelle réglementation, nous allons devoir transmettre 7 jours avant les dossiers. Nous allons évidemment nous conformer à ces nouvelles normes. Et ça nous paraît normal.
C'est-à-dire que l'investisseur, lui aussi, sera sur la plateforme une semaine avant ?
Tout à fait.
Tout
à fait. Nous verrons ce que nous impose la directive européenne et nous nous mettrons en conformité avec cela, comme on l'a fait. Hein. Et d'ailleurs, le secteur est assez, très sérieux. Hein. En termes de transparence, on est assez exemplaire. Hein. Je dirais, les taux défauts, les taux de retard sont affichés, mis à jour régulièrement. Et donc, on va continuer à le faire, puisque finalement, la transparence est la clé du succès de notre secteur. Hein. Et donc, on va continuer à l'être, notamment avec ces nouvelles normes.
Et justement, alors sur ces taux de retard, taux de défaut, c'est assez étonnant parce qu'on se dit qu'on ne parle que d'un seul défaut depuis le début du financement immobilier, un promoteur, un seul dossier. Qu'en est-il chez vous ? Il y a quand même du retard. Est-ce que c'est du retard qui va se résorber et qui va finalement permettre de déboucler les opérations ?
Alors, c'est vrai qu'avec la crise de mars, qui est arrivée en mars dernier, nous avons pris des mesures un peu d'accompagnement pour les opérateurs immobiliers, pour leur permettre un petit peu de souffler, puisqu'il y a une particularité chez Club Funding, c'est que les intérêts, les coupons, puisqu'on parle d'obligations, sont payés mensuellement. Et donc, nous avons permis aux opérateurs immobiliers de reporter à la maturité du projet les deux prochains coupons, donc les coupons d'avril et de mai, pour les laisser respirer. Et ensuite, nous avons suivi attentivement les entreprises que nous avons prêté des sous. Et nous avons un taux de retard, je dirais, entre 5 et 10% des projets. Mais à chaque fois, ces retards sont vraiment maîtrisés, sont encadrés par des avenants. Des nouvelles garanties sont mises en place sur les projets. Et surtout, une rémunération accrue est apportée aux investisseurs. Généralement, on augmente de 0,5, 1 ou 2% la rémunération.
Parce que les intérêts continuent à courir. Hein,
exactement.
Et chez vous, ils sont un peu...
Exactement. Et le suivi, surtout quand on fait aujourd'hui quasiment un projet par jour, est essentiel. Nous avons une équipe de suivi qui est dédiée. Nous avons la chance, avec les coupons mensuels, de suivre un peu virtuellement et financièrement tous les mois l'entreprise. Et donc, nous avons des signaux qui remontent au moins mensuellement.
Bon, pas de sueur froide, là, le jour où, justement, ça s'est tendu en 2020 là, avec la crise, non ? Pas forcément ?
Non. On avait déjà eu des discussions un peu dures avec des opérateurs immobiliers. On avait passé des difficultés, on avait remboursé les investisseurs. Là, on a pris le temps, on avait le temps, on était chacun chez soi, d'appeler tous les opérateurs immobiliers pour faire un point sur leur trésorerie. Et assez vite, on a été rassuré. Ouais.
Même question, l'heure pour vous, chez l'Indosphère. Là, c'est des gros projets industriels. Ça n'a pas vocation à être mis en question, même si, on était tous dans des situations un peu particulières. Comment ça s'est passé ?
Ça s'est passé très bien. Les entreprises que nous accompagnons, on les rend suffisamment solides pour absorber 2-3 mois de retard sur les chantiers et sur les projets qu'elles portent. Donc il n'y a pas eu de retard lié au Covid et à la crise sanitaire que nous vivons. Et nous avons aussi fait un point avec chacun de nos émetteurs pour anticiper les éventuelles difficultés, mais il n'y en a effectivement eu aucune. C'est un secteur qui est très résilient, encore une fois, qui a une surface financière qui est importante et qui permet de passer ces aléas et ces crises sans aucune difficulté. Alors, il y a eu peut-être quelques retards sur les chantiers, mais qui n'ont pas du tout été répercutés sur les échéances qui ont été maintenues en temps et en heure pour chacune des opérations.
Avec l'immobilier, on sait que c'est un déplacement préféré des Français, donc pas de souci. Là, on est dans quelque chose qui a trait à la croissance verte. On sait que les Français aussi sont appétents à mettre du sens dans leur épargne. Est-ce que du coup, vous voyez, avec cette nouvelle tendance, en tout cas qui s'accélère là, ces dernières années, plus d'appétence, plus de souscripteurs chez vous ?
Les volumes sont en très nette croissance. On va cette année réaliser plus 40% en volume par rapport à l'année dernière, en atteignant 120 millions d'euros au total levés depuis 7 ans, et plus 50% de projets accompagnés entre 2020 et 2021. Donc il y a à la fois côté porteur de projet le recours quasiment systématique au financement participatif pour les financements dont nous parlions précédemment. Et côté investisseur, une appétence de plus en plus forte de mettre en cohérence le placement de son épargne avec une sensibilisation en tout cas aux enjeux du réchauffement climatique, avec un couple rendement risque qui est très bon et qui permet de concilier sens et rendement avec son épargne. Et également proximité. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble important. Cette transparence du placement et ce circuit court entre le projet et l'investisseur, qui est aussi une réelle recherche et qui répond à une appétence de transparence et de territorialité de ces investissements.
On a un rendement un peu supérieur si on est riverain du projet. C'est ça, on a souvent la possibilité d'avoir un point de rendement en plus. Si on est dans le département, c'est ça ? Vous pouvez expliquer un peu le système ?
Sur certaines opérations, la volonté de l'opérateur, c'est de favoriser l'investissement local. Et donc, en proposant effectivement des conditions préférentielles aux personnes qui habitent dans la commune ou la communauté de communes du projet. Et notre base d'investisseurs est ainsi très bien répartie sur le territoire français, puisque nous accompagnons aussi chaque porteur de projet sur le terrain pour expliquer, faire de la pédagogie sur le projet qui est financé et sur le fonctionnement du financement participatif. Et ainsi, on a une base d'investisseurs qui est très, très large en termes de profil, avec la capacité d'investir dès 50 euros et avec une connaissance précise, puisque présentée localement, physiquement, sur le terrain, auprès des investisseurs.
Alors à l'inverse, là, pour une fois, c'est un placement où les Parisiens, en Ile-de-France, on n'a peut-être pas accès aux meilleures opportunités, parce que les parcs solaires et l'éolien dans cette région-là, il n'y en a pas beaucoup.
Alors, on a effectivement parfois des déceptions, des frustrations de la base d'investisseurs franciliennes, mais qui est très dynamique et très présente sur la plateforme. Et on a aujourd'hui des opérations ouvertes à tous d'envergure. Les deux que vous citiez, donc pour les opérateurs Amarenco et Noé, ce sont des financements pour le premier de 6,5 millions d'euros et pour le second de 5 millions d'euros que nous réalisons en plusieurs tranches pour coller au plus près du besoin de financement de ces opérateurs. Et donc des campagnes qui laissent de la place à tout le monde avec la capacité d'investir sans montant maximum pour notre base d'investisseurs francilienne.
D'accord. Alors justement, tiens, il nous reste quelques minutes, on va faire le point sur ceux que ça intéresse. Comment on fait pratiquement pour investir ? Il faut créer un compte spécifique, on passe par un conseiller en gestion de patrimoine. Comment ça se passe pratiquement ?
On investit en direct, on s'inscrit sur la plateforme, on crée son compte avec les obligations réglementaires de connaissance du client. Donc télécharger des pièces, classiques pour créer un compte. Et ensuite, on peut le créditer très facilement en ligne. Il faut compter 24-48 heures entre le moment où on crée son compte et le moment où il peut être crédité pour la validation des pièces, qui est faite à double niveau par la plateforme et par le service de paiement. Mmh. Et ensuite, on a accès aux projets qui sont présentés en ligne sur la plateforme. Et aujourd'hui, nous, on enregistre 2/3 d'investisseurs récurrents. C'est-à-dire que des personnes qui vont avoir investi sur un premier projet il y a 3-4 ans vont aujourd'hui être multirécidivistes, si on peut dire, parce qu'ils ont touché leur premier remboursement. On a versé un peu plus de 7 millions d'euros d'intérêts et reversé une bonne partie du capital aussi qui a été investi. Et donc la capacité à chaque nouveau projet de réinvestir et de finalement se faire un portefeuille diversifié et en cohérence avec ses aspirations en termes de transition énergétique.
Même principe sur la plateforme Clubfunding ?
Exactement le même principe, inscription, passage par un test AMF pour s'assurer,
client.
Exactement, et s'assurer que le client maîtrise les risques qui sont liés au produit. Ensuite, le client a accès au produit et peut souscrire en quelques clics. Et la souscription se fait sous forme de prélèvement. Donc on envoie un mandat de prélèvement au client et il peut donc choisir le projet. Il se fait prélever du montant qu'il souhaite investir.
Il y a ce nouveau règlement européen dont on a un peu parlé qui va arriver, donc en novembre, je crois. Oui. Il y aura un droit de rétractation aussi, je crois, qui sera institué. Qu'est-ce que ça peut changer concrètement en IMO
C'est juste que les collectes prendront un petit peu plus de temps, puisque finalement...
Il y a 4 jours, c'est ça.
Voilà, 4 jours, il faudra s'assurer que tous les clients souhaitent continuer sur le projet ou trouver des remplaçants, finalement. Voilà. Mais c'est vrai que, comme l'or, nous avons une base d'investisseurs qui a tendance à augmenter. Aujourd'hui, nous sommes à 15 000 investisseurs actifs. Et même si on fait un projet par jour, il y a de la place pour tous les investisseurs.
D'accord. On laisse évidemment, on garde en tête les bons conseils père de famille. On diversifie, c'est-à-dire on n'est pas obligé de mettre le paquet sur un seul projet. On peut rentrer plusieurs fois sur les projets. Vous disiez multirécidiviste, voilà, il y a des gens qui investissent comme ça tout au long de l'année, leur VERAG.
Oui, effectivement, la volonté, en tout cas la logique, c'est de diversifier ses placements. Et c'est tout à fait possible avec le nombre de projets que nous mettons en ligne quotidiennement sur la plateforme. Donc, comme je disais, plus de 50% de projets accompagnés en 2021 par rapport à 2020. Et c'est une tendance qui va continuer à être enregistrée sur l'endosphère. Et donc, ça permet de se constituer un portefeuille bien diversifié, reposant sur plusieurs types d'énergie, plusieurs opérateurs et l'assurance d'être en direct dans ces projets d'énergie renouvelable.
Voilà pour le crowdlending. David, vous vouliez ajouter ?
Non, mais
même chose sur l'immobilier.
Les mêmes conseils, et vraiment, il faut diversifier les projets géographiquement, par type d'opérateur, par maturité, par taux, par type de garantie, pour avoir le portefeuille le plus granulaire possible.
C'est à partir de 100 euros, 500 euros ?
Alors, à partir de 1000 euros chez Club Funding.
Et 50 euros.
50 euros.
Et voilà. Normalement, on a au moins le choix entre deux projets en permanence, c'est ça ? Les plateformes doivent au moins présenter à la souscription en même temps deux projets pour qu'on puisse au moins.
Bon, pareil. On rappelle du coup les adresses internes de vos sites, donc
lindosphère.com,
clubfunding.fr. Merci en tout cas à vous deux, Laure Verrac, donc la directrice générale de Lindosphère, David Alnouchi, le cofondateur de Clubfunding. Merci Julien pour avoir préparé cette émission. On se retrouve dans un instant pour la suite du Grand Rendez-vous de l'Épargne.
Le Grand Rendez-vous de l'Épargne, ça vous concerne.
Une de vos rubriques préférées, bien évidemment, dans le Grand Rendez-vous de l'Épargne, c'est cette rubrique « Ça vous concerne ». Toutes les questions qui arrivent nombreuses à la rédaction de Capital et qui sont traitées par nos experts. Et le tri a été fait une fois de plus brillamment par Thibault Lamy. Bonjour Thibault, comment ça va ?
Bonjour Fabrice.
On a une question pour notre experte, notre première experte, c'est Charlotte Tamer. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Directrice conseil chez Yomoni. On va parler compte-titres, Thibault.
Oui, compte-titres avec Sonia. Donc, c'est une lectrice qui s'est retrouvée débitrice sur le compte espèce de son compte-titre suite au versement d'un dividende sous forme d'actions. Ces actions étant elles-mêmes... ce dividende étant fiscalisé au prélèvement forfaitaire unique, la flat tax. Et pour régler le problème, la banque a procédé à la vente de plusieurs actions sur le compte-titre sans l'autorisation de notre lectrice. Notre lectrice n'est pas d'accord et elle voudrait savoir si sa banque en avait le droit.
Eh bien oui, la banque a le droit de faire ça. En fait, quand vous avez un compte-titre, donc on va imaginer qu'un compte-titre, c'est une enveloppe à l'intérieur de laquelle il y a deux sous-enveloppes. Un compte espèce, donc comme votre compte courant, un compte en liquidité, et un compte qui permet de rentrer sur les marchés financiers pour acheter des titres, des actions, des obligations, etc. D'accord ? Sur la partie investie, en fait, vous pouvez détenir des titres vifs, c'est-à-dire des actions, des obligations. Et ces titres, en fait, vont distribuer un revenu à l'année. Donc, quand on est sur des obligations, ça distribue un coupon. Quand on est sur une action, ça distribue un dividende. Et en fait, les revenus des titres financiers sont, elles, comme la question l'indiquait, fiscalisées à la source. C'est-à-dire que ce n'est pas au moment de la déclaration fiscale que vous déclarez avoir reçu des coupons, des obligations, mais en fait, le prélèvement fiscalement va se faire directement à l'intérieur de votre contrat. Et donc, on va se servir de l'argent qui est en cash sur le compte-titre, c'est-à-dire que le compte-titre est quand même censé toujours avoir un petit peu de d'argent espèce, en tout cas c'est à l'investisseur d'anticiper le type de revenu de ces titres investis pour s'acquitter de la somme due aux impôts. Et si au final le compte espèce est vide, eh ben, en fait, la banque est en droit en fait, de liquider certains titres pour générer de la liquidité et payer le prélèvement à la source fiscale. Voilà. Alors, par contre, la banque, elle est quand même dans l'obligation de prévenir, l'investisseur et par tous les moyens. Donc, pour ça, elle peut lui mettre un message dans son espace connecté, mais il a été révélé qu'un simple message laissé dans l'espace connecté n'était pas une alerte suffisante. Et donc, elle doit aussi, par exemple, lui envoyer un mail. Si elle lui envoie un mail plus qu'il a le message dans son espace investisseur, on estime qu'il a suffisamment été informé et que donc, c'était à lui de réguler la situation, c'est-à-dire de faire un apport en liquidité dans son compte-titre pour pouvoir s'acquitter de sa créance fiscale. Et à défaut, sous 48 heures après envoi du message information du client, si le client n'a pas réagi, eh bien, la banque est en droit de vendre des titres à n'importe quel cours. D'accord ? Qu'importe le risque qui est pris, si le cours de marché est bon, si le cours de marché n'est pas bon, et de vendre n'importe quel titre pour s'acquitter de la somme qui est due.
D'accord, donc là on a quand même une petite alerte sur les comptes-titres, surtout quand on parle de dividendes versés en actions, parce qu'en numéraire, ça n'aurait pas posé de problème finalement.
Tout à fait, c'est effectivement quand ça va être versé sous forme de paiement en euros et non pas
C'est
en actions, où donc le client ne va pas réaliser en fait réellement qu'il a... C'est-à-dire qu'il peut ne pas... totalement comprendre ce qui se passe d'un point de vue investisseur. Enfin, c'est-à-dire qu'il ne voit pas le fait que ça génère de la fiscalité. Et c'est un cas qui a été étudié par l'AMF. Et en plus de ça, c'était vu comme des actions gratuites. Et ce n'est pas parce que l'action distribuée est gratuite, enfin, est dite comme gratuite, qu'elle n'est pas fiscalisée. Voilà. Donc, en fait, parfois, il peut y avoir des mouvements de marché liés à la détention de titres financiers qui n'apparaissent pas comme quelque chose de fiscalisable aux yeux du contributeur. Donc, toujours bien vérifier sa boîte mail, son espace connecté, parce qu'à partir du moment où la banque a informé, bah, y a quand même l'obligation d'y répondre, et pour cela, l'investisseur a 48 heures pour le faire. À défaut, c'est la banque qui s'en chargera, malgré les conditions de marché ou l'avis négatif du client.
Ou laisser peut-être aussi un petit quelque chose sur son compte-titre, même si c'est vrai que c'est de la trésorerie quelque part.
Bien sûr, c'est la recommandation en fonction du type d'investissement. Donc là, on est plutôt investi sur des titres vifs. On n'est pas à l'intérieur de fonds communs de placement où au final, la distribution des coupons, des dividendes, que ce soit en titre ou en numéraire, soit fait, puisque tout se fait à l'intérieur d'un fonds. Mais il est vrai que quand, a priori, on est investi sur du titre vif et donc il peut y avoir ce type de mouvement sur le portefeuille investi, la recommandation, c'est quand même de conserver un minimum de cash. Mmh. Alors, au prorata de ce qui est investi en face, mais peut-être de laisser quelques centaines ou quelques milliers d'euros sur le compte-titre, il n'y aura pas forcément de problème d'érosion monétaire et ça permettra en fait de faire le jeu, la balance entre ce qui fiscalement est dû et qui est prélevé à la source. C'est là où est le danger. Mais voilà. Et ça permettra d'anticiper des faits générateurs que l'investisseur n'a pas compris ou n'a pas vu arriver, effectivement.
Le compte-titre ordinaire, attention, n'est pas un compte bancaire, donc pas d'agio, ça c'est la bonne nouvelle, mais
voilà.
Il ne peut pas être débiteur.
Et pas de découvert.
Pas de découvert. Voilà pour... Sonia qui sera peut-être un petit peu déçue, mais la banque avait raison. Merci Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni. Tout de suite, une autre question.
Merci.
Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
Une autre question d'un lecteur tout de suite, et ce sera pour notre experte Nathalie Cousigou-Suaz. Bonjour maître.
Bonjour à tous.
Nathalie qui est notaire à Paris et qui a joué le jeu du pull de Noël. Merci Nathalie. Alors, on a une question de Julien Thibault.
Ouais, une question de Julien qui est bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. Malheureusement pour lui, le bénéfice de ce contrat a été requalifié en donation. Donc Julien se demande s'il encourt une majoration sur les droits de donation à payer au fisc.
Alors effectivement, c'est une question qui se pose. Alors ça peut être surprenant. Effectivement, Julien, il est surpris et il peut l'être. Parce que a priori, c'est ce que dit le Code des assurances, hein, c'est l'article L312-12 du Code des assurances. Le capital reçu à la suite du décès d'un souscripteur par l'assuré, eh bien, ne rentre pas dans la succession. Donc il y a un traitement particulier pour l'assurance vie, puisque de principe, ça ne rentre pas dans la succession. Donc d'une part, il y a une fiscalité particulière qui n'est pas pour la grande partie assujettie au droit de succession. Puis d'autre part, vous savez sûrement que lorsqu'on a des héritiers dits réservataires, eh bien, ceux-ci doivent avoir une certaine part de la succession. Eh bien, ces assurances vie ne rentrent pas dans cette part de calcul. Donc il y a un traitement particulier. Donc fiscalement, c'est avantageux. Et aussi sur le plan civil, dans les rapports entre héritiers, comme ça ne rentre pas dans la succession, eh ben les bénéficiaires du capital n'en sont pas comptables vis-à-vis des autres héritiers. Il en va différemment, nous dit la Cour de cassation, quand l'assurance, enfin quand le bénéfice du capital peut être requalifié en donation. Alors donation, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a eu une volonté d'avantager particulièrement l'assuré. Alors ça se passera notamment lorsque on considérera que ce sont des primes manifestement excessives qui ont été versées. Donc ça veut dire quoi ? C'est une requalification par les tribunaux, il y a un faisceau d'indices. On regarde les revenus de l'assuré, son capital, et si les primes qu'il a versées sont manifestement excessives, ça peut être requalifié en donation. Donc ça réintègre le giron de la succession dans les rapports entre héritiers. Et puis aussi, c'est assujetti à la fiscalité des droits de succession. On l'a vu, beaucoup moins avantageuse que la fiscalité de l'assurance-vie. Puis il y a une autre conséquence, une autre raison, c'est non seulement quand les primes sont manifestement excessives, mais aussi quand, sans être excessives, il y a ce qui s'appelle un défaut d'aléa. C'est-à-dire qu'on considère que l'assurance vie, normalement, c'est pour l'assurer. C'est-à-dire que l'assurance vie, hein, c'est un déversement que l'on fait. Normalement, on est censé en profiter pour soi. Mais pour le, en cas d'assurance vie, ce qui reste, ça revient par le biais de la clause bénéficiaire au bénéficiaire qu'on a désigné. Mais lorsqu'il y a un défaut d'aléa, c'est-à-dire concrètement, je sais que j'ai un cancer, j'ai plus longtemps à vivre et je prends une grosse partie de mon patrimoine pour le mettre en assurance vie, je sais très bien que c'est pas moi, assuré, qui va en bénéficier, mais c'est mes bénéficiaires. Donc tout ça, ça peut induire une requalification par les juridictions civiles en donation, ce qui veut dire déjà que les autres cohéritiers vont pouvoir demander la réintégration dans la succession pour pouvoir éventuellement bénéficier. Puis surtout, ça va être requalifié dans la succession, c'est-à-dire au droit de succession. Donc si Julien, c'est un parent éloigné, eh bien au lieu de la fiscalité favorable de l'assurance vie, il va payer des droits de succession à 60% après un abattement forfaitaire de 1594 €. Donc là, Julien, il nous demande, mais en plus de ces droits de succession très importants que je vais payer, est-ce que je ne subis pas en plus une majoration de 40% sur ces fameux droits de succession pour manquement délibéré à mes obligations déclaratives, c'est-à-dire parce que je n'ai pas déclaré que c'était une donation. Et ben, là-dessus, il y a eu un arrêt de la Cour d'appel de Versailles, il n'y a pas très longtemps, hein, du 12 octobre 2021, qui est venu dire qu'il aurait fallu que l'assuré, que le bénéficiaire sache qu'il s'agisse vraiment d'une donation. Et donc, on se fonde sur un faisceau d'indices. Là, dans les cas qui étaient soumis à Versailles, à la Cour d'appel de Versailles, il a été relevé que les bénéficiaires ne connaissaient pas le bénéfice de cette assurance et qu'ils n'ont accepté le bénéfice de ce contrat qu'après le décès de l'assuré. Donc, pour cela, la Cour d'appel de Versailles, elle a dit « Ok, on requalifie, c'est une donation, mais on considère que le bénéficiaire, il ne pouvait pas s'imaginer que c'était une donation, donc on ne lui met pas en plus une majoration de 40% en titre de sanction de manquement aux opérations déclaratives. C'est vrai que ça paraît complexe. Hein. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est que normalement, le capital que vous recevez d'une assurance vie, normalement, il est hors succession. Hors succession vis-à-vis de vos cohéritiers, c'est-à-dire que vous n'en avez pas à être comptable vis-à-vis de vous, d'une part, et puis d'autre part, il y a une fiscalité favorable qui est régie par les articles 757B et 990I du Code général des impôts. Qu'est-ce que ça veut dire, cette fiscalité ? Ça veut dire que le souscripteur, tous les versements qu'il a fait avant l'âge de 70 ans, eh ben, le capital reçu par chaque bénéficiaire, eh ben, il y a un forfait de 152 500 en deçà duquel on n'est pas imposé. Donc c'est particulièrement favorable. Ouais. Hein ? Et au-delà, jusqu'à 800 000 €, donc c'est quand même de grosses sommes, c'est fiscalisé à 20%. Donc c'est extrêmement favorable par rapport à la fiscalité des droits de mutation, ce qu'on appelle les droits de succession. Et puis, pour les versements faits après l'âge de 70 ans, c'est cette fois-ci l'article 757B du Code général des impôts, on dit que là, pour le coup, c'est la fiscalité des droits de succession, mais après un nouvel abattement forfaitaire de 30 500, mais pour toutes les primes, pour l'ensemble des primes versées. Donc, c'est beaucoup moins favorable, mais il y a encore un petit intérêt. D'accord ? Donc là, ce qu'a décidé la Cour d'appel de Versailles, c'est que c'était absolument pas une assurance vie éligible à ce traitement fiscal favorable. Et du coup, ils ont dit que c'était comme une donation, donc taxable comme des droits de donation selon le degré de parenté. Donc si Julien était un neveu, c'est du 55%. Si c'est un étranger, c'est du 60%.
Mais sa bonne foi a été quand même retenue par...
La bonne foi a été retenue parce que la cour d'appel de Versailles, dans le cas qui avait été soumis, en fait, c'était une dame qui, alors qu'elle était âgée de 76 ans, avait ouvert un contrat d'assurance vie sur lequel elle avait mis 6 000 €. Et 25 ans après, donc 25 ans plus 76 ans, ça veut dire qu'elle avait 100 ans. Elle a mis la bagatelle de 760 000 € sur son contrat d'assurance vie. Et puis elle est morte 6 mois après.
D'un coup d'un seul, quoi.
D'un coup d'un seul. Enfin, à 100 ans, d'un autre côté, c'était un petit peu prévisible. Du coup, on considère que le Trésor public a dit non, non, c'est vraiment une donation pour ces 750 000. Donc vous êtes taxé comme si c'était une donation et pas la fiscalité favorable. Donc en l'espèce, soumis à la Cour d'appel de Versailles, c'était des étrangers, donc ils ont eu 60% de droits de succession. Mmh. Mais en plus, le fisc voulait appliquer une pénalité de 40% pour non-déclaration. Et là, la Cour d'appel a dit non, non, ils ne pouvaient pas savoir que c'était une donation.
C'est très clair, voilà. En tout cas, pas la peine d'attendre 100 ans pour faire vos donations. Vos enfants, petits-enfants en auront bien sûr besoin avant. Voilà. Merci.
Bien sûr, merci.
Maître Nathalie Kouzigoussuas, on se retrouve très prochainement. Et puis tout de suite, un nouvel expert.
Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
Une autre question pour un autre expert en accueil, Stéphane Absolu. Bonjour Stéphane.
Bonjour Fabrice.
Directeur associé de Pixis Conseil. Julien, on va parler SCPI à l'étranger, c'est bien ça ?
Tout à fait, tout à fait. C'est Gabriel qui a acheté des parts de SCPI investies à l'étranger. Alors, il voudrait savoir si la fiscalité sur les parts est vraiment plus intéressante que celle qui est appliquée aux parts de SCPI, on va dire 100% française.
Alors, on va essayer de synthétiser un peu ce sujet, parce que c'est un sujet qui est relativement complexe. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la situation de Gabriel, qui est un résident fiscal français, il peut se retrouver dans une situation où les revenus de ses parts de SCPI peuvent être fiscalisés à la fois en France et à la fois dans le pays d'origine des immeubles qui sont dans la SCPI. Et alors, pour éviter un phénomène de double taxation, parce que du coup, on pourrait avoir un double impôt, il existe des conventions fiscales qui sont établies entre la France et de nombreux pays, hein, ce sont des conventions bilatérales. Et ces conventions bilatérales ont pour objectif d'éviter et de mettre en place des dispositifs pour éviter une double taxation. On a deux dispositifs qu'on peut retrouver, ça dépend des conventions, c'est-à-dire que chaque convention aura ses particularités, c'est là où il faut impérativement aller voir la convention dont on le dépend. Et chaque convention donc prévoit soit un mécanisme de crédit d'impôt, soit un mécanisme de taux effectif, ce qu'on appelle mécanisme de la règle du taux effectif. Alors, concernant le crédit d'impôt, on va être sur des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, où là, ce qu'on va appliquer sur les revenus qui sont générés par les parts de SCPI, on va appliquer la règle du crédit d'impôt. Alors, à prendre l'exemple, imaginons que Gabriel est investi dans une SCPI avec des biens immobiliers en Allemagne. C'est donc le mécanisme du crédit d'impôt qui va s'appliquer. Donc là, ce qui se passe, c'est que la convention nous dit que la fiscalité est prélevée dans le pays de situation de l'immeuble, donc en Allemagne. L'Allemagne prend déjà son impôt sur les revenus dégagés par l'immeuble. Et puis en France, on nous dit qu'il va falloir déclarer ces revenus-là et que la convention fiscale nous donne un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt qui est normalement payé en France. Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, hein, c'est global. Alors avec une petite subtilité, c'est que ce crédit d'impôt, il est déterminé d'après un taux moyen d'imposition. Alors que nous, dans la règle, l'impôt sur le revenu est établi sur un taux marginal. Donc là, on peut avoir un petit delta qui fait qu'on va se retrouver quand même un peu imposable en France, puisque mon crédit d'impôt, moi, il va être calculé sur un taux moyen et il va venir effacer ma fiscalité française, mais ma fiscalité française est établie sur un taux marginal. Donc on peut avoir ce petit delta qui s'opère. Et les prélèvements sociaux, eux, sont intégralement gommés par ce crédit d'impôt. Donc ça, c'est plutôt un mécanisme favorable, puisque au travers du crédit d'impôt, on gomme en fait la fiscalité française. On se retrouve uniquement qu'avec la fiscalité du pays de situation de l'immeuble. Donc on prend l'exemple de l'Allemagne. Là, les revenus fonciers en Allemagne sont moins taxés qu'en France. Donc par le mécanisme de mon crédit d'impôt, globalement, ma fiscalité est plus avantageuse parce que le pays d'émission de la fiscalité est un pays à fiscalité moins lourde que la France. Le deuxième mécanisme, c'est le mécanisme du taux effectif. Et là, c'est pareil, on se retrouve dans une situation où le contribuable ne va pas subir d'impôt en France, puisque en fait, les revenus qui sont dégagés par cette SCPI vont être uniquement pris en compte pour le calcul du taux d'impôt qu'on va appliquer à ces revenus. Donc on prend en compte tous les revenus, y compris ces revenus de SCPI étrangères, et on détermine le taux d'imposition qui va être applicable. Et ensuite, on applique ce taux d'imposition aux seuls revenus français. Mes revenus de SCPI sont mis à l'écart, ce qui fait qu'au final, là aussi, ça me génère un petit coût parce que c'est venu augmenter, le cas échéant, mon taux d'imposition. Mais ensuite, dans le calcul de l'impôt, on s'aperçoit que ces revenus-là ne subissent pas l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Donc là encore, au travers de ce mécanisme mis en place par les conventions fiscales, les revenus qui sont générés par les SCPI étrangères ne sont pas ou peu fiscalisés en France, mais uniquement dans le pays d'origine. Il faut savoir que les pays les conventions qui soumettent au taux effectif, on a des pays comme la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal, en tout cas pour la zone européenne, Donc voilà, il faut bien regarder la convention qui s'applique. Et puis pour terminer, juste un rappel important, c'est que si les SCPI dans lesquels Gabriel a investi en fait génèrent un déficit, il faut savoir que là, la règle est un peu moins favorable, notamment par rapport au crédit d'impôt, puisque normalement, dans les mécanismes de crédit d'impôt en France, si jamais je ne l'utilise pas intégralement, il m'est remboursé. Mmh. C'est le mécanisme du crédit d'impôt. Là, en l'occurrence, ce crédit d'impôt généré par les conventions bilatérales ne permet pas le remboursement, c'est-à-dire que si je suis en déficit, mon crédit d'impôt ne pourra pas être utilisé et il ne me sera pas remboursé. Donc c'est un peu la limite de l'exercice, notamment lorsqu'on a des SCPI qui, le cas échéant, pourraient générer un revenu négatif. Voilà, pour l'exposer sur ces règles un peu complexes d'imposition des revenus étrangers.
Ouais, bon, ce qu'il faut retenir, c'est que les règles fiscales pour les SCPI étrangères sont quand même bien plus intéressantes que celles qu'on a en France. Et qu'à la limite, nos lecteurs, de manière générale, ont intérêt à regarder dans quel pays les SCPI sont investis.
Exactement. Les pays à fiscalité inférieure à la France seront forcément plus intéressants. En tout cas, d'un point de vue fiscal. Après, ce qu'il faut regarder, c'est aussi le support et dans quoi on investit. Mais en tout cas, fiscalement, ça peut être effectivement plus intéressant.
Ouais, ça à prendre en compte, effectivement. Merci Stéphane Absolu, directeur associé chez Pixis Conseil. Ainsi s'achève ce numéro du Grand Rendez-vous de l'Épargne. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Julien Bouissou d'avoir préparé la première partie. Merci Thibault Lamy pour ces questions pertinentes triées sur le volet. Merci à la technique Théo Benoît Hambourg, Loïs Large. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Épargne.
Retrouvez le Grand Rendez-vous de l'Épargne en podcast sur Radio Patrimoine et en vidéo sur capital.fr.